la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Il n'est jamais trop tard pour faire meilleure impression, et ça, les candidates et candidats aux municipales l'ont bien compris. Dans nos boîtes aux lettres, les professions de foi colorées, les portraits souriants et les promesses se succèdent. Pas sûr que ce soit suffisant pour dérider les Parisiennes et les Parisiens. Si pester est un sport local, c'est parce qu'on en a gros sur la patate dans la capitale. Le prix des transports en commun, la pollution, le tracé déroutant des pistes cyclables, ou encore l'accès difficile au logement. Les préoccupations pèsent assez lourd pour affaisser les sourires dans toute la ville. Alors qui pour agir? Quels changements sont vraiment possibles? En vue des élections municipales qui auront lieu du 15 au 22 mars, la matinale donne la parole aux acteurs locaux qui œuvrent concrètement sur le terrain. C'est tous les mardis soirs sur Radio Campus Paris jusqu'au 10 mars et vous écoutez la première édition des Mardicipales. Au sommaire de cette matinale thématique, deux invités spécialisés dans la question du logement. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole et fondateur de l'association Droit au logement, interviewé par Philippe, et Fanny Sarkissian-Palaisi, déléguée territoriale vie étudiante chez AFEF Paris. Nous serons avec Greg pour l'interviewer dans le Zoom et parler de l'accès au logement pour les étudiants. Le flash info du jour sera présenté par Tom. À la chronique actu, nous aurons Grégory pour nous parler de la série phénomène Heated Rivalry. Et nous clôturerons l'émission avec la chronique libre de Julie. Bonne mardicipale à toutes et tous.
Les mardicipales. À l'approche des élections municipales 2026, la matinale de 19h vous propose sa série spéciale. Tous les mardis jusqu'au 10 mars sur Radio Campus Paris.
Comment répondre à la crise du logement à Paris? Comment trouver un hébergement décent quand les loyers représentent 40 à 50% des dépenses des ménages dans les grandes villes? Dans un tel contexte, comment les personnes les plus précaires, comme les sans-abri, peuvent-elles espérer se réinsérer? Et comment lutter contre la lente expulsion des classes populaires en dehors des centres-villes? Jean-Baptiste Hérault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous engagez sur ces sujets et défendez les mal logés à travers votre association Droit au logement depuis 1990. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, c'est Philippe qui va vous interroger sur vos revendications et sur la suite de vos engagements en 2026.
Oui, bonsoir Jean-Baptiste Hérault. Le rapport annuel de la Fondation pour le logement des défavorisés vient de sortir et la situation est préoccupante. 350 000 personnes sont sans domicile fixe en France. 2,8 millions de ménages sont en attente d'un logement social en 2025. 590 000 personnes vivent chez des tiers. Le tout dans un contexte sociétal où la précarité est bien ancrée dans la société française. 9 millions de personnes sont considérées comme pauvres en France. On est loin de l'optimisme affiché lié à une petite amélioration de la situation de l'emploi depuis quelques années. Jean-Baptiste Hérault, vous êtes porte-parole du droit au logement d'Al. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas et présenter votre association, le DAL?
Rapidement. Donc moi, je suis un des fondateurs de l'association qui a été créée en 1990 et qui est, on va dire, une association de type syndical. Et l'idée, c'est d'organiser les mal logés, les sans logis et les locataires pour défendre leurs droits. Donc on a vu un certain nombre de lois qui ont fait avancer les droits des personnes dont je viens de citer par rapport à la législation en vigueur à l'époque. On a avancé, mais par contre, du point de vue économique, la crise du logement s'est aggravée puisque le logement est devenu de plus en plus cher, l'objet d'une rente, de gagner le plus d'argent possible sur le logement, l'exploitation du besoin essentiel, fondamental, qui est celui de se loger.
Oui, on va en parler, bien sûr. Dans l'actualité, il y a le plan Le Cornu Jean Brun, qui a été présenté en janvier. Vous êtes opposé à ce plan. Selon vous, c'est une guerre déclarée aux locataires.
Ah oui, oui. Enfin, il y a deux choses. Il y a d'abord l'idée fausse que défend le gouvernement, selon laquelle en aidant à l'investissement locatif, c'est-à-dire en aidant les riches et les petits riches à acheter des logements pour les louer, on va résorber la crise du logement. Bah, pas du tout. En réalité, cette petite recette-là existe depuis 1995 et ne fonctionne pas. La preuve en est, c'est que le logement est devenu tellement cher que même les classes moyennes n'arrivent plus à se loger.
Oui, c'est vrai.
Le deuxième point, c'est que faut pas oublier que Jean Brun a quand même annoncé qu'il allait s'inspirer du modèle canadien pour gérer les rapports locatifs. Alors, le modèle canadien, c'est le modèle français au 19e siècle.
Oui, c'est ça, c'est un modèle...
C'est-à-dire liberté sur la fixation du loyer, sur la durée du contrat, ça peut être un contrat d'un mois et plus, sur le renouvellement du contrat, pas d'obligation de renouveler, sur le motif de demander un congé à son locataire. Enfin, je veux dire, c'est la liberté totale, c'est le paradis des bailleurs, en fait, tout simplement. Et nous, on va dire, c'est le retour de... Attention, c'est le retour de M. Vautour.
Oui, en tout cas, c'est pas un progrès selon vous. Donc là, le rapport Le Cornu-Jeanbrun, enfin le plan Le Cornu-Jeanbrun et la loi Choc. Vous pouvez nous parler également de la loi Choc qui vient d'être adoptée par le Sénat, alors qui vise à construire 400 000 logements d'ici 2030.
Oui, alors bon, il y a deux choses. Il y a, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut toujours aider les propriétaires à investir, mais je dirais les loyers ne pourront pas monter jusqu'au ciel. Ni les prix de l'immobilier. Donc là, ils n'ont jamais été aussi élevés en France. Il faut dire maintenant, il faut que la bulle éclate. Voilà. Alors, ils veulent faire 400 000 logements, dont 280 000 logements pour faire de l'argent, quoi. Des logements privés, spéculatifs, un peu d'accession à la propriété, et puis 120 000 logements sociaux. Mais 120 000 logements sociaux, on ne les a jamais atteints qu'une seule fois en France, en 1973. D'une part, et d'autre part, bah, ils ont quand même, je dirais, essoré considérablement la trésorerie des bailleurs sociaux qui leur permettait de produire du logement social bon an mal an, de produire des nouveaux logements et surtout d'entretenir le patrimoine qui se dégrade de plus en plus. Là, aujourd'hui, malheureusement, les bailleurs sociaux n'ont pas les moyens d'entretenir convenablement leur patrimoine. Donc là, comment on va faire ? Pour nous, il faudrait que l'effort public porte sur la réalisation massive de logements sociaux et arrêter d'aider, je dirais, le logement cher.
Là, on va se concentrer peut-être sur Paris. Paris, c'était une situation un peu particulière, hein, du fait de la cherté, etc. Quelle est la situation du mal-logement à Paris et du logement social à Paris, justement ?
Alors, bah, évidemment, là, les loyers sont exorbitants à Paris. Et ça, les jeunes, les étudiants le connaissent et le subissent. Et connaissent des conditions de logement qui se dégradent par rapport à ce qu'on a pu avoir il y a 20 ans.
Justement, au niveau des populations, ça touche uniquement les étudiants ou non, ça touche d'autres
populations?
Non,
c'est plus large. C'est beaucoup plus vaste, ouais. Oui, bien sûr, c'est plus large. Ça va toucher, on va dire, les salariés pauvres, ou les salariés qui ont le SMIC ou un peu plus que le SMIC, qui ne vont pas pouvoir se loger s'ils n'ont pas un logement social. Ça va toucher même au-delà, hein, les petites classes moyennes, les enseignants, tous ceux qui font tourner un peu la ville, en fait, qui permettent à l'économie urbaine de fonctionner. Et puis, on a aussi jamais eu autant de demandeurs de logements sociaux. À Paris, on est à 290 000 demandes de logements sociaux pour 9 000 attributions dans l'année. Donc, il y a vraiment une situation catastrophique.
Donc, vous pensez que la situation s'est aggravée quand même sur Paris ?
Ah oui, bien sûr. Elle s'est dégradée, hein, à mesure que les prix des loyers ont augmenté et les prix de l'immobilier... qui ont permis d'ailleurs à la ville de Paris et à l'État, en règle générale, les collectivités territoriales profitent du logement cher. Et donc c'est une aubaine, c'est de l'argent qui vient, plus le logement est cher et plus il y a de retombées financières et fiscales pour les collectivités territoriales et pour l'État. Et ça, malheureusement, c'est un drame. Parce que du coup, on a un intérêt convergent entre ceux qui possèdent ou ceux qui investissent pour faire de l'argent et les pouvoirs publics. Et là, il faut arriver à briser cette entente. Moi, je voudrais dire qu'en France, on n'a pas toujours connu une situation dramatique, aussi dramatique. Les loyers, la part de leurs revenus que les locataires consacraient aux loyers en 1973 était de 10%. Mmh. Aujourd'hui, on n'a pas le taux d'effort, mais la moitié des ménages consacrent plus de 29% de leurs revenus au loyer.
Le budget a beaucoup augmenté.
Il a presque triplé. Ah
ouais,
quoi,
tout à fait. En réalité. Donc ça pèse sur le coût de la vie.
Et voilà. Et quand je dis la moitié, à Paris, c'est beaucoup plus.
Ouais, enfin,
c'est
bien
beaucoup
sûr.
Plus que 29%.
Bien sûr.
Et or, c'était 10% à Paris, parce que les loyers étaient encadrés, donc les prix de l'immobilier étaient jugulés, tout simplement.
Donc l'encadrement, pour vous, c'est une solution sur Paris ?
Bah, c'est une solution générale sur toute la France aujourd'hui, ouais. Enfin, dans toutes les zones tendues, j'entends. Hein, bon. Et donc là, oui, il faut absolument encadrer les loyers, mais à la baisse. Et de ce point de vue-là, le gouvernement Hollande n'a pas été assez loin. On avait une chance historique de bloquer justement cette spéculation qui s'était développée depuis le début des années 2000. Ben là, non. Là, malheureusement, ils n'ont pas été assez loin. Alors, il faut tenir. Hein. Enfin, je pense qu'il faut maintenant que les locataires prennent conscience des dangers qui sont en train d'arriver parce que les bailleurs, les bailleurs, ceux qui louent des logements, sont de plus en plus gourmands et veulent des loyers toujours plus chers. Et voilà, en même temps qu'ils veulent aussi des prix de l'immobilier de plus en plus chers pour ceux qui détiennent un patrimoine. Et voilà, donc il y a cette logique de cherté du logement, du foncier et des loyers qui écrase les classes populaires, les jeunes, les petites classes moyennes. Voilà, aujourd'hui. Alors,
justement, on vient de connaître une discussion sur le budget hein, qui a été très longue. Vous pensez que tout est à jeter dans le budget, là, où il y a de graves lacunes, ou est-ce qu'il y a vraiment quelques points intéressants, quand même?
Bon, ils ont lâché un petit peu d'argent pour les bailleurs sociaux, quoi, un petit peu. Ils ont lâché un peu l'étreinte, ils ont un peu desserré l'étreinte, on va dire. Mais il n'empêche qu'il y a toujours une ponction de 900 millions d'euros hein, sur les bailleurs sociaux au lieu de 1,3 milliard. Il y a un peu d'aide aussi à la construction de logements qui est octroyée. Mais pour autant, il ne faut quand même pas oublier que la loi choc, oui. Qui a été donc proposition de loi, qui a été voté au Sénat, qui doit désormais passer à l'Assemblée, prévoit tout simplement de remettre en cause l'obligation pour les communes qui ont moins de 25% de logements sociaux de les réaliser. C'est-à-dire que, comment on va faire ? Où est-ce qu'on va les construire, ces logements ? À Paris, il faut faire de la place aussi, c'est ce qu'on dit aux candidats. Il faut impérativement que vous préemptiez. Maintenant, seul outil, c'est la préemption. Donc il y a une vente préempter, allez, il faut acheter, etc., des immeubles, des logements, parce qu'on sait bien qu'il n'y a plus beaucoup de place pour construire dans la capitale.
Sur la loi Choc, il y a aussi des mesures sur les expulsions, je crois, pour faciliter les expulsions.
Exact, ça c'est un premier pas, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'autoriser l'expulsion des locataires qui vivent dans une passoire thermique. C'est-à-dire que le propriétaire pourrait donner congé à son locataire à la fin du contrat, en prétextant qu'il a des travaux à faire pour mieux isoler sa boutique. Mais c'est quand même, je dirais, du point de vue éthique ou du point de vue moral, c'est d'une grande brutalité. Parce qu'on a un locataire qui a payé son loyer rubis sur l'ongle, qui a vécu dans le froid ou qui a été obligé de consommer énormément d'énergie, de payer des factures très lourdes, et en guise de remerciement, on le fout à la rue. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui...
Alors, Jean-Baptiste Thérault, excusez-moi, je me permets de vous interrompre. On poursuit cette conversation sur les expulsions juste après une pause musicale. Merci beaucoup. On écoute tout de suite « Two Glasses of Whiskey » de Mexel. Et c'était Two Glasses of Whiskey de Mexel. Vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris 93.9. Et on reprend donc notre interview avec Philippe et Jean-Baptiste Thérault, où nous parlions des logements à Paris et nous en étions sur les évictions, les expulsions.
Effectivement, on va parler tout à l'heure des réquisitions. Bon, juste une petite question générale. En fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une inflation de lois sur le sujet du logement? Il y a quand même beaucoup de lois qui sont votées tous les ans pratiquement. Est-ce que c'est pas pour des raisons idéologiques finalement? Parce qu'on a du mal à s'entendre sur la question du logement finalement.
Ah oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a laissé croire aux Français quoi, que le logement c'était l'Eldorado en fait. Qu'on allait pouvoir effectivement arrondir ses fins de mois en louant un logement, en investissant, investissez, achetez des logements, devenez propriétaire bailleur. Et puis bah, le résultat des courses, c'est qu'il y a des exigences assez fortes de ce côté-là, c'est-à-dire propriétaire qui veut gagner un peu plus parce qu'il a besoin, pour telle ou telle raison, de gagner un peu plus que sa retraite, avec des retraites qui ont perdu aussi de leur valeur. Et qui se sont... Donc on a cette question-là qui est posée de manière globale. Et évidemment, nous, on veut éviter de se retrouver dans une guerre entre petits propriétaires et locataires. Mais il n'empêche que on n'oublie pas que la propriété bâtie, la propriété locative, est détenue majoritairement par des personnes qui ont beaucoup d'argent.
Oui.
Donc voilà.
Justement, j'ai vu dans un de vos tracts, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça tract, mais enfin, c'est en tout cas des comptes rendus qui sont sur votre site, qu'effectivement, il y avait quand même 4% des propriétaires, je crois, qui étaient détenteurs de 4 ou 5 logements. Donc, évidemment, ceux-là,
logements et plus, ouais.
Ce sont des rentiers. Quoi. Voilà,
voilà.
Donc, je pense qu'il faudrait peut-être distinguer la situation des propriétaires.
Oui, effectivement. Mais après, il faut faire un atterrissage en douceur. C'est-à-dire, il faut dire, on ne peut pas... La Lune, on ne peut pas... Enfin... Comme je disais tout à l'heure, les loyers peuvent pas monter jusqu'au ciel, quoi. Et ni les prix de l'immobilier. Faut pas penser que sinon on va produire une misère terrible, de plus en plus de sans-abri, de plus en plus de surexploitation, de gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer fin du mois, qui se font expulser, etc. Parce qu'il y a une paupérisation aussi d'une partie des classes populaires. Les classes populaires étaient propriétaires de leur logement. Dans les années 60-70, ils ont accédé à la propriété. Aujourd'hui, les classes populaires ne sont plus propriétaires. Parce que, bon, il y a eu l'effet, évidemment, elles ont vendu, etc. Donc, les catégories ouvrières, employées, précaires, auto-entrepreneurs, etc., n'arrivent plus à accéder à la propriété. Parce que c'est trop cher.
Ouais.
Vous voyez ? Donc, après, des propriétaires bailleurs. Les propriétaires bailleurs sont globalement pas non plus très nombreux en France. Ils représentent 7 à 8% des ménages.
Il y a plus de 50% de propriétaires en France, je crois.
Non, propriétaires occupants.
Propriétaires occupants.
Faut distinguer le propriétaire occupant du propriétaire bailleur. Hein. C'est pas la même chose. En général, le propriétaire bailleur aussi propriétaire de son logement. Enfin, il habite son logement. Mais 58% des ménages en France sont propriétaires de leur logement. Hein, parmi lesquels un peu moins de 10% sont propriétaires bailleurs. Vous voyez ? Voilà, c'est comme ça que les choses se répartissent. Oui, c'est différent.
C'est complètement différent. Ouais.
Et après, la question, c'est cette illusion, mon logement, il a pris de la valeur, ma maison, elle a pris de la valeur, je vais regarder le prix sur les agences immobilières, tout ça. Mais en réalité, si on veut acheter une pièce en plus, elle va coûter beaucoup plus cher. Si la famille s'agrandit. Puis au moment de l'héritage, les enfants, aussi pareil, pour acheter une pièce en plus, ils vont toucher un peu d'argent, pour acheter la pièce en plus, ça va leur coûter beaucoup plus cher. Donc ce n'est pas forcément très intéressant, même du point de vue du calcul qu'on peut avoir. C'est un sentiment d'enrichissement artificiel, en fait. Et tout ça dépend aussi, au fond, du marché. Il ne faut pas oublier qu'en France, depuis 1990, on a des crises immobilières, avec des prix immobiliers qui se cassent la gueule un certain temps.
Pour rester sur Paris, sur l'Île-de-France, le marché est quand même plutôt élevé. Enfin, c'est une situation un peu particulière sur Paris. Je voulais qu'on parle aussi des réquisitions, parce qu'il y a eu une galette des réquisitions à Paris le 1er février, je crois. Vous étiez partie prenante. Selon vous, il n'y a pas assez de réquisitions de logements ?
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout simplement. Alors d'abord, on a une augmentation du nombre de logements vacants. Alors, j'ai regardé avant de venir, je me suis dit, tiens, j'ai regardé ce qu'il y avait. Alors je n'ai pas regardé la région parisienne, mais on est un peu dans la situation similaire. Hein. 1954, on avait 0,5% de logements vacants à Paris. on en comptait 5559. Voilà. 2024, on a 128 000 logements vacants à Paris, et on en compte, soit 9,2% du parc total. Et si on ajoute les résidences secondaires, pareil, qui ont progressé à une vitesse, qui ont progressé énormément, eh bien on est à 134 000 résidences secondaires. Autrement dit, on a près de 20% du parc parisien qui est soit inoccupé de manière permanente, soit inoccupé de manière temporaire, résidence secondaire, donc du Airbnb, etc., etc. Donc, si vous voulez, là, on a un problème. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'au fond, un logement, c'est fait pour être habité, pas pour rester inoccupé.
Oui, oui.
Et donc, la galette, nous, on a fait la galette des logements, la galette des réquisitions. On a été dans le triangle d'or, qui est ce quartier très, très cher, qui est situé entre l'avenue Georges V, les Champs-Élysées et puis avenue, j'ai oublié, Montaigne, voilà.
Montaigne, oui.
Et voilà, il y a un petit quartier au milieu, là, qui a été désertifié au fil des années et qui appartient en grande partie à un groupe immobilier qui s'appelle la Foncière du Triangle d'Or et qui est détenu par un étranger avec une société qui est basée aussi à l'étranger, qui ne paye pas ses impôts depuis 25 ans, qui a poussé les locataires progressivement dehors et qui en a fait en quelque sorte des actifs financiers. Bon, donc c'est-à-dire pour les revendre quand il veut, logement vide, ça se vend plus cher qu'un logement occupé. Et voilà, il a fait son placement, les prix ont été multipliés par 3, par 4 dans le secteur. On est même monté à 40 000 euros le mètre carré. Le mètre carré, c'est le quartier le plus cher de France en fait.
Ouais.
Et donc, ces immeubles sont vides. Et cette société, cette foncière du Triangle d'Or, doit, selon la presse, un demi-milliard d'euros à l'État.
D'accord.
En termes d'impôts qui n'ont jamais été payés, de D'accord. taxes, etc., etc. Pourquoi l'État ne réquisitionne pas ces immeubles? Il pourrait y loger 300, 400, 500 personnes sans abri, plutôt que de les coller dans des hôtels coûteux et de les mettre à la rue au bout de quelques semaines, dès qu'il commence à faire un peu moins froid. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on demande. Des familles, des enfants qui sont à la rue, ou des personnes prioritaires d'ALO qui ont été reconnus prioritaires, qui doivent être relogés en urgence et qui sont de plus en plus nombreux à Paris, en région parisienne. Hein. Donc là, il y a vraiment y a à faire. Donc on pousse, on fait campagne pour qu'ils appliquent cette loi sur des biens appartenant à des riches propriétaires, étant entendu que c'est une mesure temporaire, d'un an renouvelable 6 fois, bon, que le propriétaire est indemnisé, donc c'est ni une spoliation, ni une expropriation. Voilà, bon, faut bien remettre les choses à l'endroit. Et visons les propriétaires de 5 logements et plus, voire de 10 logements et plus, font comme ils veulent. De toute façon, c'est à la main de l'État. Donc l'État fait ce qu'il veut sur cette question-là.
Alors justement, vous avez parlé de volonté politique. Alors justement, il y a les municipales à Paris. Est-ce que vous allez prendre part à la campagne municipale? J'ai vu que quelqu'un qui fait partie du DAL, s'il veut se présenter, il doit retirer l'étiquette DAL. Mais il n'empêche que quand même, vous avez un programme assez précis, hein, pour interpeller les candidats. Alors il y a mettre fin aux politiques d'urbanisme, ayant pour effet de chasser les classes populaires ou de les empêcher de s'installer, agir contre le logement en chair, la pénurie de logements locatifs, prendre des mesures immédiates pour loger les sans-abri au lieu de les chasser vers d'autres communes, un logement digne et décent pour les locataires de l'OPH de la ville, intégrer la diversité de l'habitat dans les politiques de logement et d'urbanisme, et des quartiers conviviaux, accueillants. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce programme? Quel est le point qui vous paraît essentiel dans... Vous voulez vraiment interpeller les candidats?
Bah écoutez, il y a... Oui, bien sûr, on va le faire là. On leur prépare un questionnaire qu'on va leur envoyer à partir de la semaine prochaine. Bon, voilà, pour leur demander quelles sont leurs intentions. Et on leur explique nous ce qu'on veut. Donc ils sont pour, ils sont contre. Voilà, à partir de là, on rendra les résultats s'ils nous ont répondu. Hein. Bon, maintenant, évidemment, on ne souhaite pas que les candidats qui souhaitent réduire le nombre de logements sociaux qui sont déjà en nombre insuffisant à Paris ou qui se refusent obstinément de financer des nouveaux, là on ne sera pas d'accord, évidemment. Il y a un danger quand même aujourd'hui, parce que ce discours qui est instillé, qui dit oui, logement social égale pauvre, dangereux, délinquant, trafic de drogue, vous voyez, il y a tout ce discours-là aujourd'hui qui est instillé dans un certain nombre de médias et qui stigmatise en fait les catégories populaires, bon, qui est fait pour ça, ou le locataire mauvais payeur parce qu'il va en vacances aux Bahamas, enfin, on nous l'a sorti, on l'a vu quand même sur des chaînes de télé de grande diffusion, et donc c'est caricatural et c'est terrible, parce que ça, l'idée c'est de dire, de toute façon si t'es pauvre, c'est de ta faute, t'es un délinquant potentiel, si tu l'es pas, t'es quand même un délinquant potentiel, et si c'est pas toi, c'est ta famille. Voilà. Et ça, c'est hyper dangereux, parce que là, on va vraiment vers une brutalisation de la société.
De ce point de vue, il y a une dégradation du climat politique. Par exemple, il y a des élus du RN qui vont se présenter à Paris. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une mauvaise influence sur le climat politique, justement ?
Bon, on verra. Je pense que ce que j'ai entendu, c'est que la gauche, en règle générale, de LFI jusqu'au PS, est d'accord pour la réquisition. Bon, mais malheureusement, la mairie de Paris n'a pas le pouvoir de réquisition. Donc il y a une loi, peut-être il y a une loi qui va être discutée à l'Assemblée nationale le 12 février, donc c'est jeudi. Dans 10 jours, nous, on appelle un rassemblement pour soutenir cette proposition de loi, pour que la loi de réquisition s'applique au moins sur les immeubles du Triangle d'Or, mais aussi sur d'autres immeubles appartenant des bureaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de mètres carrés de bureaux inoccupés à Paris et en région parisienne, et dans les grands centres urbains, en règle générale. Et donc, il y a lieu de mobiliser ces biens, en attendant d'édifier les logements sociaux dont on a besoin. C'est logement social, c'est du logement simplement moins cher, avec des loyers moins chers que le marché. Voilà, donc on a deux rendez-vous, le 12 février, à midi, à l'Assemblée nationale, et également le week-end du 28-29 mars, qui précède la fin de la trêve hivernale, avec le retour des expulsions, et qui est une date traditionnelle de mobilisation pour le droit au logement. Et là, avec les projets de loi qui s'annoncent, anti-locataires, il faut que les locataires se mobilisent et descendent dans la rue, c'est clair.
D'accord, c'est noté.
Merci Jean-Baptiste Thérault, on garde un œil du coup sur le 12 février, cette loi. Merci d'avoir été avec nous pour nous aider à mieux comprendre la question du logement à Paris en Ile-de-France. Merci Philippe. On va maintenant passer au Flash Info. On retrouve Tom et vous êtes toujours sur Radio Campus 93.9 et il est 19h31.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Tom, et c'est parti pour le Flash Info. Qu'est-ce que tu nous racontes ce soir ?
Bonsoir Mathilde, l'actualité en France aujourd'hui, c'est surtout l'ouverture du procès dans l'affaire pédocriminelle de 10 hommes à Lille, mis en examen il y a un an dans une enquête pour le viol d'un enfant de 5 ans sous soumission chimique. L'enquête avait été ouverte à la suite d'un signalement après une soirée chemsex. L'enfant de 5 ans aurait été mis en relation avec des adultes de sexe masculin par son propre père. Ces 10 hommes ont entre 29 et 50 ans et auraient commis des violences sexuelles aggravées sur le jeune garçon. Et puis toujours en justice, le procès en appel de Marine Le Pen continue pour encore 10 jours. Ce matin, le premier avocat général a déclaré « des peines d'inéligibilité seront bien requises à l'encontre de la candidate ». De son côté, le ministère public a débuté ses réquisitions cet après-midi. Marine Le Pen ne s'exprimera pas après celle-ci. Si la chef de file du RN est bien présente dans la salle d'audience, elle a décidé qu'elle ne prendrait pas la parole. À l'étranger maintenant, l'entreprise informatique française Capgemini a annoncé mettre en vente sa filiale qui travaille pour l'ICE, la police de l'immigration aux États-Unis. Selon l'Observatoire des multinationales, Capgemini aurait conclu un contrat avec le gouvernement américain pour fournir à l'ICE un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères. Les agents de l'ICE déployés dans plusieurs villes des États-Unis sont accusés de mener des raids violents, parfois meurtriers, dans les rues et les espaces publics pour arrêter et déporter des personnes en situation illégale. De nombreuses personnalités ont condamné ces agissements, comme Billie Eilish au Grammy Awards dimanche soir. Et puis en Iran, alors que la répression des manifestations qui ont déjà fait 30 000 morts continue, le président a ordonné hier soir d'entamer des pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. Ces derniers jours, Donald Trump a multiplié les menaces envers l'Iran et renforcé la présence militaire des États-Unis dans la région, tout en affirmant espérer ne pas avoir à utiliser la force. Et puis en sport, une bonne note pour finir, cette semaine c'est le retour du tournoi Destination. Le 15 de France champion en titre accueille jeudi soir l'Irlande en ouverture du tournoi pour un choc qui verra le capitaine Antoine Dupont titulaire pour la première fois en sélection nationale depuis plus d'un an après sa grave blessure contre ces mêmes Irlandais.
Merci Tom pour ce flash info. On fait une pause en musique, restez avec nous tout de suite, on écoute 2 minutes pour convaincre d'Hugo TSR.
Tu dis que le rap est mort, vas-y remballe tes théories. Là Hugo Boss, MC de compétition élevé au riz. On arrive à main nue, on percera sans trop de manie. La réussite serait la bienvenue comme un 4-4 en Somalie. Je veux plus voir les porcs voter, moi ça me rend dingue de voir mes potes sauter. Dans le coin les commissaires ne s'inspirent pas de la méthode Coé. Plus rapide que la DSL, venu pour s'étendre. Le nom de famille c'est TSR, le meilleur crew de tous les temps. Ça brûle partout, il peut y avoir plein de fous même dans un petit quartier. Trop de jeunes en loup sont prêts à tout pour peser lourd comme Guy Carlier. Je comprends plus rien comme les satanistes de leur morale envers. Faut que je file à l'anglaise, 21 piges, j'ai un moral en baisse. On présente 18, écoute ce qui suit, tu parleras après. J'ai fait mon trou comme un Inuit qui part à la pêche. Tors le cou au corps, j'ai pas ces jeunes qui collent leur couille au col. Qui foutent la trouille aux gosses, juste un jet qui esquive les fouilles au corps. Pour ça qu'on dise, mais un beau jour tout s'accomplit. Comme ça consiste, c'est la combine, t'accaparer toutes les compiles. T'as compris, j'amène ma bombe. Pour les victimes, j'suis désolé, comme à la corrida. Quand j'monte sur scène, j'veux entendre des olé. J'ai qu'un seul but, avec les putes, j'veux en finir. Sache que ma zig n'en est pas une, même si elle s'habille en vinyle. Il paraît que j'ai plus de neurones, que je consomme trop de boissons violentes. Moi je veux sortir la tête de l'eau comme un poisson volant. Pas moins que je roupille, je suis tout speed sur 12 pistes. Trop d'oubli, trop de soupirs et peu tout bip dans 12 bins. Je vis dans ce climat baisé, ce que je ne veux pas c'est m'abaisser. Je suis pas vexé, juste dans la merde comme une baraque à pas de baisser. On aime casser, et alors y'a bien des vieux cas dans la chasse. Faut que j'arrête de teaser quand c'est tout le temps, j'avoue ça donne la chasse. Regarde les jeunes, normal ils gueulent, c'est des aides qui veulent. Ils font du hockey sur bitume avec des crosses de désert tigre. Quand je déboule, direct boum, jusqu'au bout je tiens d'être boum. Aimerait boum, on a un type plus fort qu'une boîte carrée de boule. Comme la plupart des jeunes, pense à l'argent quand je décroche mon phone. On écoute la rue et on traduit comme Nelson Montfort. Wesh mon pote, la société elle pue, je crois qu'on pourrait faire mieux. Chez nous les flics sont élevés en plein air comme les poulets fermiers. Pour les pointures, des attentats, la bombe de peinture. Max d'armes ou les clochards volent aux pigeons, leur baguette de peinture. En manque de bif comme un dealer, qui a pas de fond de télé. Toujours de speed, pire que Jean-Claude Van Damme sur un plateau de télé. A vous, on fait un grand effet sur toute la bande FM. Avec sa propre flamme, on vient brûler la France FM.
On écoutait ensemble donc 2 minutes pour convaincre de Hugo TSR. On a notre invité et Grégory qui sont arrivés. On va parler toujours de la situation du logement à Paris, cette fois avec un focus sur les étudiants. Merci Fanny Sarkissian-Palaisi d'être avec nous ce soir. Vous êtes déléguée territoriale vie étudiante chez AFEV Paris.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, tout d'abord, quel est votre bilan de l'année 2025 sur la situation des étudiants et leur logement, vous qui êtes au plus près d'eux?
Ouais, peut-être pour donner contexte, du coup, moi je travaille à l'AFEV, qui est une association qui engage des étudiants. Et on a différents programmes d'engagement sur lesquels on reviendra, dont un qui loge des étudiants. Et donc sur la question du logement, plusieurs constats. Le premier, c'est que les loyers continuent à augmenter. En 10 ans, on a doublé les loyers pour les petites surfaces. Sur le national, on est aujourd'hui à peu près 500 euros en moyenne. En Ile-de-France, on est plutôt à 200, voire 300 euros de plus selon les villes. Et du coup, ça fait que c'est la première dépense pour les étudiants. Ça représente la moitié, voire les deux tiers de leur budget. Et avec le loyer qui augmente et leurs ressources qui n'augmentent pas, ça a des conséquences à la fois sur la façon dont ils vont se loger, mais aussi sur le reste de leur budget. C'est-à-dire qu'ils vont avoir moins d'argent pour manger, tout simplement, pour leur santé. Et puis, je ne parle même pas de l'accès à la culture, etc. On a aussi l'âge de décohabitation qui recule. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des étudiants en Ile-de-France qui habitent encore chez leur famille, alors qu'on sait que la décohabitation, c'est un facteur de réussite dans l'enseignement supérieur. Et puis, ça augmente aussi les inégalités parce que quand on n'a pas le budget ou qu'on a le budget, on n'a pas les mêmes chances face à l'accès à l'enseignement sup. On a un super budget, on va d'abord choisir son établissement préféré, son top 1. Et ensuite, on va voir où est-ce qu'on se loge à côté. Alors que si on n'a pas les moyens, forcément, on va d'abord voir où est-ce qu'on peut se loger et trouver où est-ce qu'on peut étudier à côté. Donc là, on a directement des inégalités face à l'accès à l'enseignement sup à cause du logement.
Et ça, vous le voyez sur le rythme des étudiants que vous suivez, comment les transports, le fait par exemple d'habiter loin du lieu d'études, ça affecte leur capacité à se concentrer parce que les transports sont longs, ils rentrent tard, ça ajoute une charge mentale, j'imagine.
Ouais, carrément. En plus, en Ile-de-France, on a énormément d'étudiants qui habitent dans un département et étudient dans un autre. Donc ça fait beaucoup de trajets. Et puis, forcément, quand on est dans les transports, on n'a pas le temps de se reposer, de réviser. Donc oui, bien sûr, ça a un impact sur leurs études.
Y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui dit que seulement 11% vivent dans les CROUS. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous redire ce que c'est le CROUS et quelles sont les autres manières de se loger auxquelles ont accès les étudiants?
Ouais. Le CROUS, donc, c'est le réseau des œuvres sociales. Donc, c'est une aide publique qui a plein de services comme les bourses, comme les restos universitaires qu'on connaît. Le CROUS, du coup, le logement universitaire. Et en Ile-de-France, on est encore pire au niveau des chiffres. Au national, on a 6% des étudiants qui sont logés dans une résidence CROUS, ce qui est déjà peu. Ça donne à peu près une place pour 17 personnes.
Mais alors qu'à la base, c'est le premier dispositif d'aide aux étudiants, normalement.
C'est le logement étudiant, okay. Bien sûr. Et en Ile-de-France, c'est malheureusement pire parce qu'au lieu d'une place pour 17 étudiants, on a une place pour 48 étudiants. Donc c'est vraiment la guerre pour se trouver un logement.
Du coup, quelles sont les autres possibilités? Il y a le parc privé, bien sûr. Donc ça, c'est à peu près, on est 33%, je crois, dans le privé.
Oh, même beaucoup plus. En fait, on a plutôt 10% des étudiants qui se logent dans le parc social, le logement CROUS, évidemment, mais chez les bailleurs sociaux, on a aussi du logement étudiant dédié. Et en fait, il y a 90% des étudiants qui sont dans le privé, pour ceux qui décohabitent, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui restent chez leurs parents. Et les problèmes dans le privé, comme on le connaît, c'est typiquement le prix des loyers et le non-encadrement. Alors, il y a des choses qui sont faites, comme à Paris ou en Seine-Saint-Denis, où il y a de l'encadrement des loyers. Mais ce n'est pas le cas dans les autres villes. Et en fait, c'est vraiment un truc qu'il faudrait développer parce que les dépassements comme ça des loyers, c'est surtout sur les petites surfaces. Et les petites surfaces, c'est les plus précaires et les étudiants qui sont dedans.
Il y a d'autres dispositifs. J'ai vu CROUS, les résidences privées avec services. Ça, c'est qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous en parler? Non, pas plus que ça.
Non, c'est pas que je peux pas en parler, c'est juste plutôt mon avis là-dessus. C'est que oui, on voit de plus en plus d'offres privées qui se développent et qui proposent multitude de services. Pour cacher le fait que en fait, c'est des loyers très très élevés et que ça ne correspond pas forcément aujourd'hui aux moyens des étudiants et à leurs besoins.
Ça ne répond pas du tout à la demande.
Pas forcément. Et si on revient sur le public, ce qui est vraiment dommage, c'est que alors déjà les chiffres aujourd'hui sont un peu limites et il y a quand même des grandes annonces qui sont faites. On a le plan logement étudiant qui avait été annoncé il y a quelques années et qui proposait 60 000 places en plus, dont 30 000 en Ile-de-France. Et là, quand on fait le bilan quelques années après, il n'y en a même pas la moitié qui ont été construits. On a 12 000 logements de plus pour les étudiants en Ile-de-France. Donc, c'est vraiment pas suffisant.
Okay. Et donc, quel est le rôle de l'État là? Donc, c'est surtout les régions en général qui sont normalement prises à partie, c'est ça? En Ile-de-France, par exemple, est-ce qu'on est dans les clous, entre guillemets ou...
Non, du coup, parce qu'effectivement, on voit des disparités entre la proportion de logements étudiants en France et en Ile-de-France. Il y en a moins proportionnellement en Ile-de-France, donc il y a un problème et il faut qu'on fasse mieux. Donc oui, les CROUS qui sont par académie en Ile-de-France, c'est un peu plus découpé que dans d'autres régions, donc il y a un travail à faire là-dessus. Mais il y a un travail aussi d'autres échelles publiques. Il y a aussi les villes qui peuvent faire ce travail-là, qui peuvent réhabiliter des bâtiments qui, par exemple, nous on a un logement dans le 13e qui a été réhabilité, c'était des bureaux avant, et en fait ils les ont rénovés pour faire du logement étudiant à l'intérieur, parce que je prends l'exemple de Paris, mais en fait il n'y a plus d'endroit où construire, donc il faut rénover, il faut récupérer, je ne parle même pas des logements inoccupés qu'on compte par centaines et centaines, et pour ça il y a un vrai travail aussi de coopération entre les communes parce qu'on ne peut pas réfléchir seulement dans son scope à soi. surtout que je disais que les étudiants, en fait, ils bougent énormément en Île-de-France. Donc, en fait, il faut réfléchir ensemble. Il y a des programmes qui ont été lancés dans d'autres régions qui s'appellent les OTLE. C'est les observatoires territoriaux du logement étudiant. Et en fait, en Île-de-France, il y en a 4 qui ont été dessinés, mais ils ne sont pas forcément actifs. Et en fait, on a besoin d'avoir les universités, les villes, les métropoles, les bailleurs, etc., qui se mettent autour de la table et qui réfléchissent ensemble à comment on fait pour loger les étudiants aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui bloque alors pour que ces gens-là ne se mettent pas autour de la table ?
Qui se parlent et puis qui voient effectivement en fait que leurs étudiants, ils ne sont pas que dans leur ville. Ça, les universités s'en rendent de plus en plus compte. Je sais que les partenaires qu'on a aujourd'hui nous disent, mais si vous n'avez pas de place dans la ville où on est nous, on est prêts à avoir du logement pour des étudiants en dehors de la ville et on a envie d'avancer avec vous là-dessus, quoi.
Et rapidement, avant de passer à ce que vous mettez en place, est-ce que vous avez un profil type d'étudiant mal logé ? Est-ce que vous pouvez...
Ouais. Évidemment, ça va toucher les plus précaires, les non-boursiers, mais aussi les boursiers, hein, parce que quand on est boursier, ça ne veut pas dire qu'on est logé. Il n'y a qu'un quart des boursiers qui ont accès au logement. Et en plus de ça, même ceux qui ne sont pas boursiers, ils peuvent être précaires. On le sait, aujourd'hui, il y a une réforme des bourses qui est demandée depuis des années et des années par les organisations étudiantes. Et en fait, il y a besoin de plus les aider. Ça va être aussi beaucoup les étudiants internationaux. Nous, ça fait beaucoup partie des jeunes qu'on accompagne dans notre programme qui arrivent en France et qui, en fait, n'ont quasi pas d'aide ou peu accès à l'information aussi parce qu'il y a des dispositifs, mais ils n'ont pas forcément l'info.
J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des appels, non, qui risquaient encore de sauter, c'est ça ?
Mais oui, tout à fait, oui, et ça a été annoncé sur le vote du budget. Ils souhaitent effectivement réduire, voire arrêter les APL pour les étudiants internationaux. Donc ça va vraiment dans la continuité de la loi Bienvenue en France, qui ne porte absolument pas son nom du coup, parce qu'on accueille de moins en moins bien les étudiants internationaux.
Alors justement, quelles sont les solutions que vous proposez pour pallier à ces difficultés ?
Ouais, nous on travaille avec les différentes villes de l'Île-de-France et puis ils ont d'autres programmes aussi avec d'autres associations qui accueillent des étudiants. Nous, le programme qu'on a, ça s'appelle CAPS, pour colocation à projet solidaire. Et le but, c'est de pouvoir loger des étudiants dans le parc social. Ce qui permet, donc nous, on travaille avec des bailleurs, avec le CROUS, et du coup, on accueille des boursiers et des non-boursiers. Donc, ça répond à cette question-là. Et la FEV, c'est vraiment une association qui a été créée pour faire le lien entre les étudiants et les quartiers prioritaires de la ville, donc de les engager. Mais on se rendait compte au fur et à mesure des années, parce qu'on a 30 ans d'existence, que les étudiants, aujourd'hui, ils sont de plus en plus précaires. Ils sont souvent obligés de se salarier. En Île-de-France, ils sont un tiers à travailler à côté de leurs études. Et du coup, ils n'ont pas le temps de s'engager. Donc, on a créé ce programme de CAPS pour les loger avec des loyers modérés. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on était quasiment à 700-800 euros de loyer en moyenne pour un studio en Île-de-France. Nous, la moyenne, elle est à 350 euros avant les APL. Donc ça leur permet d'accéder à un loyer qui est bien moindre, à une colocation entre étudiants, donc ça lutte contre l'isolement aussi. Et en échange, ils s'engagent dans leur quartier. Donc ça leur permet de se sentir utile, d'avoir un impact, d'aider aussi à lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires. Et puis ça leur permet aussi de lutter contre l'isolement, de monter en compétences, etc.
On entend beaucoup parler en ce moment d'ailleurs des colocations intergénérationnelles. Donc vous avez un avis là-dessus ? Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne pas ? Est-ce que ça se fait beaucoup déjà ? Ou est-ce que c'est un espèce de mythe ?
Ça existe, mais c'est pas non plus des chiffres énormes. Et nous, on est plutôt pour développer des colocations entre étudiants parce que c'est quand même une expérience unique de faire ses études et de rencontrer des personnes qui sont au même stade de la vie. Et on se rend compte que les colocations intergénérationnelles, même si sur le papier ça peut être intéressant, c'est pas si pertinent et gagnant pour les étudiants. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, même si ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de mixité sociale. On a des colocs dans le parc social et les jeunes peuvent échanger avec leurs voisins. Et dans les projets solidaires qu'on fait aussi, on a des projets intergés. Donc ça n'empêche pas cette
les
mixité.
Les gens de se rencontrer. Ouais,
exactement.
Merci beaucoup Fanny Sarkissian-Palaisi. Donc je rappelle que vous êtes déléguée territoriale vie étudiante chez AFEV Paris. Merci de nous avoir éclairé sur la situation du logement justement pour les étudiants. Et tout de suite, Grégory, on reste ensemble. On va parler... Actu.
Les Mardicipales, dans la matinale de 19h.
Alors, alerte canicule. Aussi fou que ça puisse paraître, en plein mois de février, préparez-vous à ressortir les ventilos et les brumisateurs car ça va chauffer sévère dans vos slipettes. La série Heated Rivalry débarque en France ce vendredi et il paraît que c'est super hot. Rien que le titre annonce la couleur. Quand on prononce Heated Rivalry, on dirait clairement qu'on a la bouche pleine, un peu comme les deux héros pendant les 6 épisodes. Et puis alors en français, ça devient Rivalité brûlante. Il y a forcément un film érotique des années 60 qui s'appelle comme ça.
Ou un film québécois.
Peut-être. Je crois que c'est pas la même traduction en québécois d'ailleurs. Bon, et sinon, ça parle de quoi ? Bah, de hockey, un peu, et d'amour, beaucoup. Car c'est l'histoire de deux jeunes joueurs de hockey sur glace, le Canadien Shane Hollander et le Russe Ilya Rozanov, qui, malgré leur rivalité sportive, tombent amoureux. Pas de panique, je ne vous spoil rien, le premier baiser arrive au bout de 17 minutes. Pour l'anecdote, la série avait été proposée à des grands studios qui avaient... Excusez-moi, je me suis perdu. Qui avait dit « Alors d'accord, on produit, mais on veut pas de baiser avant le 5e épisode. » Jacob Tierney, qui s'est chargé de l'adaptation, leur avait répondu « Alors d'accord, mais allez bien vous faire enculer. » Bon, il a sûrement pas dit ça comme ça, mais c'était pour rester dans l'ambiance de la série. Il a donc ensuite préféré se tourner vers la plateforme canadienne Crave pour garder le contrôle du projet. Choix hyper courageux, car en faisant ça, il condamnait la série à rester un produit de niche. Un peu comme les romans de l'autrice Rachel Red, dont est extraite la série, qui s'inscrivent dans la catégorie, accrochez-vous bien, hockey romance. J'ai cherché, ça existe vraiment. Il y a des centaines d'ouvrages. C'est même le sport le plus utilisé dans la catégorie romance. Alors, est-ce que c'est le côté feu et glace qui provoque une réaction chimique plus importante ? Ça, je ne sais pas. Après, on comprend, hein, les mecs sont forts, musclés, ils transpirent, c'est un sport de contact, très viril. C'est clair que le golf romance ou le tennis romance, à première vue, ça excite moins. Même si le film Challengers avec Zendaya a prouvé que le tennis, ça peut être bien chaud aussi. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que contre toute attente, la série rachetée au dernier moment par HBO est devenue en quelques semaines un véritable phénomène au Canada et aux États-Unis. Et plus étonnant encore, ce sont les femmes hétérosexuelles qui en sont le plus accros. Alors en vrai, c'est pas totalement étonnant. Déjà dans les années 60, avec la série Star Trek, une partie du public féminin fantasmait en imaginant une possible relation amoureuse entre Kirk et Spock. Ça, c'est les oreilles, c'est sûr. Même moi, ça me fait un truc. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Si vous êtes propriétaire de grandes oreilles, n'hésitez pas à laisser votre numéro à la radio. Je vous recontacterai. Et je referme la parenthèse. Plus sérieusement, ces spectatrices disent apprécier ces romances homosexuelles car selon elles, elles sont dénuées de rapports de domination hétéro et donc exemptes de toute misogynie. La chercheuse, Judith Butler, va encore plus loin. Elle constate que même si Satan a changé, les héros de fiction ont toujours été principalement des hommes hétérosexuels. Du coup, les femmes et les queers ont développé depuis l'enfance une capacité à s'identifier à ces hommes et donc à pouvoir fantasmer quel que soit le genre des protagonistes ou le type de relation. Alors, chers messieurs hétéros, qu'attendez-vous ? Si tout le monde y arrive, pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous vendredi devant les premiers épisodes de Heated Rivalry sur HBO. Vous pourrez garder vos vêtements, mais laissez tomber vos préjugés. Aucun homo ne vous attaquera par derrière parce que vous regardez une série gay, en tout cas pas sans votre consentement.
Merci Grégory pour ce bon coup de chaud, on en avait besoin. Tout de suite, on fait une pause musicale. On écoute Cut de Kiri Ito. A tout de suite. Bow 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 b c'était Cut de Kiri Ito. Et on retrouve Julie pour clôturer cette émission. Julie, de quoi tu nous parles dans ta chronique libre ce soir ?
Ce soir, je vais vous parler de mon week-end où j'ai participé à une welcome party, soirée de bienvenue pour les étudiants étrangers qui viennent d'arriver sur Paris. C'était organisé par une association qui fait des événements pour les Erasmus et, coïncidence parisienne, elle se trouve actuellement de l'autre côté des murs de notre studio. Malgré sa taille, Paris est tout petit. Lors de cette soirée, en tant que bénévole, je tenais le vestiaire. C'est un poste en dehors de la fête, loin de la musique, avec la responsabilité de surtout pas perdre le manteau Gucci de madame dont je n'ai personnellement rien à carrer. À la base, c'est pas le rôle qui donne le plus envie. Sauf que j'en ai profité pour discuter avec toutes les personnes qui venaient chercher leurs effets personnels. « Alors, t'es étudiant toi ? Tu t'appelles comment ? Oh, jamais entendu ce prénom. Tu viens de quel pays ?» « Oh, trop stylé! Tu viens d'arriver pour étudier à Paris ce semestre ?»« Ah là là, mais bienvenue !» Oui, bienvenue. J'ai souhaité la bienvenue à une ribambelle de jeunes fêtards un samedi soir. Je leur ai adressé un réel bienvenue. Un bienvenue qui ait du sens. Le sens premier de ce mot. Je te souhaite que tout se passe bien dans cette nouvelle venue. J'aurais pu dire un « Welcome to Paris !» Mais je ne veux pas sonner comme un panneau d'affichage d'aéroport. Je ne veux pas non plus balancer des bienvenues automatiques comme un standard téléphonique ou comme l'accueil dans un magasin. Nous vous offrons une réduction de 5% pour vous souhaiter la bienvenue. Non mais c'est pas ça, souhaiter la bienvenue. L'œil pétillant de la rencontre, le sourire authentique, le bienvenue sincère qui vient du fond du cœur. Cette ville était la mienne et la partager est un honneur. Aujourd'hui, pour ma chronique, j'avais envie de souhaiter un réel bienvenue à toutes les personnes qui seront heureuses de l'entendre. À ceux qui sont arrivés il y a 2 jours pour commencer le nouveau semestre, à ceux arrivés en septembre l'an dernier, à ceux arrivés il y a 3 ans et qui ont encore des choses à découvrir, puis à ceux qui étaient partis et viennent de revenir, à ceux qui ne se sentent pas vraiment d'ici alors qu'ils vivent là depuis des années, et à ceux nés à Paris mais qui ont honte de l'avouer. Bienvenue à qui veut bien l'entendre. On dit que les Parisiens sont froids, austères, hautains et bien peu chaleureux. Eh bien, faisons mentir les préjugés et souhaitons un vrai bienvenue. Une main tendue pour tous ces sauts dans l'inconnu. Le sourire aux lèvres, comme à mon habitude, on pourra me dire que c'est du grand bisounours ce discours. Eh bien oui, comme l'a dit Bad Bunny dans sa remise de prix de l'album de l'année il y a 2 jours, pour combattre la haine, il n'y a que l'amour. Et c'est pas qu'il y aurait des tendances politiques assez austères et contraires au concept de bienvenue dans l'air, mais moi, j'y vois presque une résistance du quotidien, dans le fait de dire bienvenue à un nouveau collègue, à un nouveau voisin. Au lieu d'attendre que les nouveaux se présentent, c'est à eux de s'intégrer. Mettons nos égos de côté et offrons l'accueil dont on aurait rêvé à leur place. Faisons les premiers pas. Simplement applaudir et reconnaître l'audace et l'exploit dont il faut avoir fait preuve pour être parti de chez soi. Alors si personne ne vous l'a dit, le voici, votre bienvenue réelle, de la part d'une Parisienne de souche, une vraie Parisienne qui traverse au feu vert et s'en fout de la Tour Eiffel. C'est faux, personne s'en fout de la Tour Eiffel, elle est bien trop belle pour ça. Paris est une ville si somptueuse, la Seine, ses façades haussmanniennes, son métro. D'ailleurs, qui est-ce qui a construit le métro parisien ? Je vous le donne en mille, Monsieur Bienvenue. Fulgence de son prénom. Ah, c'est marrant, jamais entendu, ça vient de quel pays ? Lui, il était breton. Mais à Paris, on trouve des personnes des quatre coins du monde. Ville cosmopolite, elle accueille chaque jour des nouveaux arrivants, des touristes, des étudiants étrangers, mais aussi des étudiants de partout en France qui montent pour leurs études, des artistes venus tenter leur chance dans la capitale. On a tous nos raisons de venir, de partir, d'errer et d'essayer. Alors pour tous ceux qui ont besoin d'un peu de chaleur dans l'inconnu, je vous adresse un bienvenue sincère, un bienvenue posé, un merci d'être là et bravo d'avoir osé.
Merci beaucoup Julie d'avoir redoré le blason des Parisiens avec cette chronique. Il est déjà temps pour nous de rendre l'antenne. C'était la matinale du 3 février. Vous êtes sur 83.9. Merci à toute l'équipe qui a fait vivre cette émission. Philippe à l'interview, Tom au Flash Info, Grégory à la chronique actu, Julie à la chronique libre et à la réalisation. Merci beaucoup à la Réal, merci à Jeanne, à Aude, notre duo gagnant, à la coordination de la matinale. Merci évidemment à nos invités, Jean-Baptiste Hérault et Fanny Sarkissian-Plaisie. Et bien entendu, merci à vous, chères auditrices et auditeurs. On enchaîne à 20h avec l'émission Le Lobby. Et sinon, rendez-vous dès demain pour la prochaine matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bonne soirée et à très vite.